Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Caroline.
Et
comment ça va?
Ben, ça va bien.
Merci.
Et vous?
Ben, bien, merci beaucoup.
Alors, oui.
Dites-moi.
Non, c'est vous qui allez me dire, Olivier. Déjà, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez éprouvé le besoin de m'appeler ce soir?
Alors, bon, déjà, je voulais vous remercier pour votre émission. Ça fait, je vous écoute depuis à peu près, le début des années 2000, voire 99. Donc, ça fait plaisir depuis le début.
Oui. Ben, c'est moi qui vous remercie de votre fidélité depuis toutes ces années.
Avec plaisir.
C'est la première fois que vous appelez?
Oui.
Oui, ouais. D'accord.
En général, je préfère et j'aime beaucoup écouter les histoires des gens.
Je comprends.
J'aime beaucoup. Et puis là, il n'y a rien d'urgent, mais il y a une situation qui va un jour ou l'autre s'imposer à moi dans les mois ou dans les proches années qui viennent.
Oui.
Ça fait plus ou moins 15 ans que je vis aux États-Unis.
D'accord.
Et donc ma famille, mes parents vivent en France.
Oui.
Et en fait, je suis pas revenu depuis à peu près, 10 ans, quelque chose comme ça.
Oui.
Ou un peu plus.
Oui.
Parce qu'en général, si vous voulez, au début, les premières années, j'y retournais moi-même. Et puis, au fur et à mesure, j'ai des amis, j'ai la famille qui a commencé à venir me voir. Donc, c'était plus facile pour eux de venir.
Mm-hmm.
Et puis, étant donné que je les voyais, moi, j'avais pas particulièrement besoin de retourner. Moi, l'essentiel, c'était d'aller les voir.
Oui.
Et en fait, mes parents ne voyagent pas ensemble parce que pour plusieurs raisons. Donc, il y en a toujours un qui doit rester sur place, qu'ils ont des animaux, etc.
D'accord.
Et donc, ma mère venait me rendre visite.
Oui.
Et puis, comme je vous disais, moi, je ne suis pas retourné là-bas depuis quelques temps. Et je pense qu'il y aura une décision à prendre la prochaine fois que j'y retournerai. C'est que j'ai jamais vraiment eu de bon rapport avec mon père.
Oui.
Et en fait, je pense que je ne veux plus retourner là-bas dans leur maison. C'est-à-dire que je veux toujours voir ma mère quand je retournerai en France.
Mm, mm.
Mais le fait de vraiment ne pas y aller, ça va marquer d'une manière un peu silencieuse.
Oui.
Et définitive. Mm. Le fait que je veux plus.
Retourner dans la maison.
Vraiment établir de communication. Voilà.
Vous avez des mauvais souvenirs dans cette maison familiale?
Pas dans cette maison.
Non.
Mais avec lui, ouais, beaucoup.
Qu'est-ce qui se passait avec votre père?
Excusez-moi, je suis un peu stressée à la radio.
Je comprends tout à fait.
Avec un peu de temps, ça va passer.
Bien sûr, oui, ne vous inquiétez pas, Olivier. C'est compréhensible de vous parler d'un sujet qui, évidemment, est très intime pour vous et c'est pas simple.
Ouais, ce qui me gêne vraiment, c'est le fait de prendre cette décision parce qu'en théorie, j'ai envie de la prendre.
Mmh.
Après, entre la théorie et la pratique, c'est quand même un monde.
Ben, c'est toujours culpabilisant, au fond, par rapport à ses parents.
Ça.
C'est ça le problème.
Voilà, ouais. c'est ça.
Alors que vous me dites, au fond, cet éloignement, que d'ailleurs vous avez mis en place. Alors après, vous vivez aux États-Unis, vous êtes loin, ça a peut-être un sens aussi, finalement.
Ah oui, moi je suis partie de chez eux très tôt, de toute façon, dès que je pouvais. Moi, je sais que j'ai eu mon bac, pas pour réussir mes études, mais juste pour partir.
Pour partir, mais...
Donc, c'était vraiment la raison pour laquelle...
Oui, vous vouliez fuir, fuir ce père.
Ah oui, complètement. Mm. Voilà, je voulais me faire émanciper, puis après j'ai eu honte devant la porte de l'assistante sociale, je me suis dit non, je peux pas.
Oui.
Mais le fuir pour aussi son équilibre à lui, parce que j'étais devenu aussi un problème pour lui, parce que c'était conflictuel tous les jours. On était arrivé à un stade où il fallait qu'il y en ait un des deux qui parte, et c'était à mon tour de partir, c'était logique. Donc moi, il fallait que je commence ma vie, c'était logique.
Et c'était conflictuel, qu'est-ce qui... tout le temps, dans vos rapports,
tous les jours, d'aussi loin que je me souvienne. Enfin non, pas d'aussi loin que je me souvienne. Aux alentours de 6 ans, ça a commencé. Il fallait que je sois le meilleur dans tout. Donc j'ai pas de frères et sœurs.
Vous êtes enfant unique.
Fallait que je sois le meilleur dans tout. Il m'enfermait après l'école dans la chambre pour que j'apprenne mes leçons par cœur. Donc je les connaissais. La moindre erreur, c'était une règle qui me cassait dessus. Bon, c'est des générations qui sont différentes. Moi, j'ai 47 ans. Il n'est pas super vieux. Il a 20 et quelques années plus que moi.
Oui, c'est pas très vieux. Enfin, non. Vous parlez de génération.
Il m'a eu un peu jeune.
Ouais, c'est plutôt, mais bon, la génération même, en 68. Enfin, 68 était quand même passé par là. C'était...
Je ne pense pas que ce soit passé par chez eux, mais effectivement, vous avez raison.
Vous avez raison, je c'est pas passé qu'ils... partout.
Ouais, je pense qu'ils sont passés à travers les mailles, mais c'est vrai, oui. Vous avez raison. Mais en fait, je pense qu'il a vraiment...
C'est un père à l'ancienne, mais dans le... C'est pas l'autorité qui... Ça a du bon, l'autorité. C'était l'autoritarisme et même la violence. On peut dire le mot.
Alors voilà, il y avait pas mal de violence. Il y avait de la violence verbale tous les jours.
Oui.
Et de l'humiliation. Et il y avait de la violence physique à certaines occasions. Donc c'était pire, c'est-à-dire qu'on savait jamais quand ça allait nous tomber dessus.
Oui.
Heureusement, en contrepartie, il y avait ma mère qui balançait beaucoup les choses, qui a une personnalité qui est complètement solaire et qui est complètement opposée à tout ça et qui est vraiment dans tout ce qu'il y a de plus beau de la vie. Et sur le coup, si vous voulez, bon, moi, j'avais pas vraiment réalisé à l'époque qu'elle avait aussi sa part de responsabilité. Ça m'est venu beaucoup plus tard. On réalise pas forcément tout sur le coup. Hein.
Mais bien sûr que non. Et puis, vous sentiez quand même, quand elle était là, un peu protégée. À sa façon.
Voilà, non, absolument. Et puis, si vous voulez, le fait est que pendant des années, j'ai eu des cauchemars très violents toutes les nuits jusqu'à à peu près 25 ans. Et puis un jour, j'ai eu quelque chose qui s'est déclenché où je lui ai pardonné. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, malheureusement, la manière d'être abusif avec les paroles, il l'a aussi envers elle. Donc moi, je pouvais pardonner pour moi. Mais si vous voulez, à chaque fois que je retourne là-bas, il y a une dynamique de couple qui me renvoie à tout ce que je ne peux pas supporter chez eux. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je comprends très bien. Je vois très bien. Oui, pardon.
Non, allez-y, pardon.
Non, c'est-à-dire que vous avez mis de la distance avec tout ça, dès que vous avez pu le faire.
Ah ouais.
Mais voilà. Vous replongez dans ce fonctionnement... dans cette violence finalement insidieuse, lorsque vous vous retrouvez avec eux, puisque il a ce fonctionnement-là avec votre mère aussi. C'est-à-dire que c'est en parole, physiquement, ou en parole.
Non, physiquement avec elle, non, jamais, Dieu merci.
Mais c'est dit la rabaisse.
C'est une femme qui se lève très tout le temps, mais d'une manière ou d'une autre. L'avantage, c'est que c'est une femme très forte qui arrive à. Enfin, je veux dire, c'est pas une femme sur qui. C'est un modèle de fascinant par rapport au fait que je me suis dit si elle pouvait lui donner un petit peu de ce qu'elle a et vice versa, ce serait un équilibre qui serait parfait. Mais c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, mais c'est toujours des dynamiques de conflit. Donc en fait, avec les années, moi je me suis aperçu quand on a eu des conversations avec elle, puisque lui en fait, si vous voulez, depuis que en fait on se parle jamais au téléphone, lui et moi jamais. Ça doit faire à peu près 11 ans. De temps en temps, il signe les cartes postales qu'elle m'envoie pour Noël ou des trucs comme ça, mais on n'est absolument pas en communication.
Il ne demande jamais à vous parler,
jamais.
Passe-moi mon fils ou...
Je n'ai même pas son numéro de téléphone, de portable, ni de mon père, ni de ma mère. Ouais. J'ai que leur numéro de fixe, ils ne m'ont jamais donné. C'est-à-dire qu'ils ont eu eux-mêmes des problèmes de confiance, à juste raison, avec leur famille. Et j'ai toujours l'impression qu'ils m'ont traité comme quelqu'un qui ne pouvait pas faire confiance, pas elle vraiment, mais lui plutôt. Donc, c'est-à-dire, je connais rien de. Je vais être un jour ou l'autre. Je leur dis, vous m'avez absolument rien expliqué de ce qui se passe au niveau de l'héritage. Enfin, je connais absolument rien. Et un jour ou l'autre, les choses vont me revenir. Donc, ce serait bien de m'expliquer un petit peu ce qui se passe ou rien. Il y a une méfiance envers moi qui a toujours été là.
Et par rapport, ça veut dire que vous ne connaissez pas votre famille paternelle ou maternelle ?
Si. Je les connais, mais. Je les connais, mais lui m'a jamais parlé de sa vie. Je sais qu'il a subi des choses qui étaient certainement très traumatiques quand il était gosse.
Et comment savez-vous cela, qu'il a subi des choses traumatiques ?
Alors, c'est
votre mère qui vous en parle ?
Non, parce que même à elle, il n'en parle pas. Par une de mes tantes.
D'accord. Une tante paternelle.
Une de mes grandes tantes, en fait.
Une grande tante. Oui. D'accord.
Ouais. Qui est décédée depuis longtemps.
Oui.
Et qui m'avait expliqué certaines choses qui relevaient limite de la torture. à son égard par sa mère à lui.
Ah oui.
Et donc, de la trahison par rapport à... Mais bon, bref, sans rentrer dans les détails. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il n'a pas réglé. Et après, il a lui-même fait un métier qui était très lié à la suspicion et à la violence quotidienne. Donc, quand il rentrait à la maison, forcément, il ramenait tous avec lui.
Un métier
donc, j'ai toujours été...
où il avait une position d'autorité par rapport
à ça.
Oui.
C'est ça. Et donc, j'ai toujours été, quoi que je fasse, même quand je ne le faisais pas, coupable de quelque chose à un moment ou à un autre.
Oui, il y a une culpabilité donc, sur des
non,
générations.
Non, mais même... sûrement. Mais...
Vous n'en avez jamais... C'est-à-dire que ça n'a jamais été évoqué, cela. Enfin, vous... Même avec votre mère, dont vous êtes beaucoup plus proche.
Alors, si.
Si.
Si, mais alors ma mère, le problème, c'est que quand elle est venue me rendre visite ici, justement, c'est là où on a pu avoir des conversations, on a pu passer du temps. Ça se passe très bien, sauf les trois premiers jours. Parce que je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. On en arrive toujours à parler de ça, parce que quand elle me parle de lui, elle me dit ton père, c'est normal. Elle me donne des nouvelles de leur vie, etc. C'est complètement normal. Et il y a un moment, je lui dis, j'ai quand même du mal à entendre que tu l'appelles mon père. Et parce que... Enfin, je veux dire, on ne fait pas partie de notre vie depuis que j'ai 17-18 ans. On se croise effectivement quand je viens. Et quand je viens leur rendre visite, en fait, quand j'allais en France, que j'allais leur rendre visite, j'allais jamais déjeuner. Je reste jamais chez eux. J'ai dû passer 3 nuits en 30 ans. Je reste chez des amis que je considère ma famille. Et je vais jamais chez eux
seul. Ça interroge, enfin, ce comportement-là de. Devrait interroger votre mère. Même si elle a à cœur d'entretenir, entre guillemets, un lien, mais un lien qui n'existe plus depuis des années, c'est ça le...
Alors, c'est ça. Et puis, elle est dans le déni, donc si vous voulez, les premiers jours, elle venait me rendre visite ici, elle était dans un déni où il a fallu que je pousse... je me suis mis hors de moi parce que je lui ai dit, attends, il ne s'agit pas d'une petite gifle à l'occasion, il s'agit de choses qui ont été graves, où j'ai atterri à l'hôpital et je lui ai dit, ça, par contre, je ne l'ai pas inventé. Donc, si vous voulez, quand je la mets face à des choses comme ça, elle peut rien répondre.
C'est-à-dire que vous avez atterri à l'hôpital suite à des violences de votre père ?
Oui, quand j'étais... ils m'ont demandé de mentir pour sa position pendant que j'étais en train de tomber dans un potentiel coma, de mentir pour le protéger en disant que je me suis retrouvé au milieu d'une bagarre.
Mais c'est d'une extrême gravité.
Voilà. Donc ça, c'était... Donc si vous voulez, quand je suis en face de lui, ça doit faire à peu près 11 ans, il n'y a plus de conflit, il y a des grands silences. Ma mère est pleine de vie, elle est en train de cuisiner, elle se lève toutes les 2 minutes pour aller chercher quelque chose dans la cuisine. Et lui et moi, on reste à table. C'est pour ça que je ne peux pas être tout seul, parce que c'est comme s'il y avait un éléphant énorme. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bah bien sûr, très bien. C'est trop angoissant, enfin...
Et je vous passe les détails, parce qu'il y a des choses que j'estime avoir été trop jeune pour connaître au niveau... si vous voulez, je me dis, je ne peux plus aller, dans leur environnement.
En fait. Mais Olivier, vous avez le droit de vous protéger de tout ça. Et vous en avez suffisamment.
Oui, mais je ne veux pas leur faire de la peine. C'est ça qui est bizarre.
C'est ça. J'entends. J'entends j'entends que malgré tout, malgré ce que vous avez vécu, vous restez un fils aimant. Et il y a de la culpabilité. Alors qu'en fait, vous ne faites que vous protéger en étant à distance.
Ouais.
Et que vous rencontrez, il y a votre silence, mais il y a du silence en face lié à un déni en fait. C'est toujours le même fonctionnement malheureusement.
Oui, mais c'est deux dénis différents parce que lui, il peut pas être en déni puisqu'il était là. Il sait très bien ce qui s'est passé.
Ah, mais si, on peut même être l'auteur de faits et être dans le déni.
Ah, je savais pas ça.
Si.
D'accord.
Est-ce qu'il n'a jamais, il n'a jamais demandé pardon, ma question. Enfin,
ça c'est quelque chose que j'ai attendu d'une manière complètement illusoire pendant des années en me disant si seulement il me demandait pardon.
Oui.
Parce qu'attention, moi je me suis rebellé très vite, c'est-à-dire que ça a commencé quand j'avais 6 ans. Il me traitait de nom que je savais même pas ce que ça voulait dire, mais je les ai jamais oubliés malheureusement et tous les jours.
Vous pouvez me donner un exemple, à moins que ça soit trop douloureux pour vous.
Non, c'est pas trop douloureux, je peux en parler, mais c'est juste que j'essaye de trouver des mots un peu plus polis que pour passer à la...
Non, justement, parce que ce n'étaient pas des mots polis, et c'est des mots qui, du haut de vos 6 ans, alors que vous n'en connaissiez pas la signification, vous ont marqué. Mais encore une fois, c'est pas indispensable.
Quand même, hein.
Bon, ben, c'est pas indispensable.
C'était futur, bon, en gros, futur loser... petite pute, des trucs comme ça. Oui. Je savais pas ce que c'était, mais c'était pas à moi qui parlait. Je l'ai compris des années après.
Oui, vous l'avez compris années après, mais sur le moment, ces paroles-là qui sont d'une grande violence, vous atteignez, c'était comme des balles. Hein.
Bah, j'avoue que je me suis dit, mais et puis surtout, comme je vous dis, j'étais toujours l'un des meilleurs à l'école, et puis un jour, je suis arrivé premier ex aequo, et c'est là où c'était le début de la fin. Comment m'est laissé quelqu'un d'autre? Et là, ça a été... Donc du coup, je suis passé... C'est là où j'ai commencé à me rebeller. Ça n'a pas été super cool. Et puis ça a été...
Mais c'est ce qui vous a permis de tenir, finalement.
Ah, complètement. Je vous assure.
Pour ne pas vous déprimer.
En fait, pour moi, il a été un peu mon pire ennemi. Et en même temps, il m'a aussi... Mon meilleur professeur. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus peur de grand-chose dans la vie.
Oui, vous avez dû apprendre à vous battre très tôt.
Je pense, et en fait, maintenant, pour moi, j'avais hâte de...
Oui, vous aviez hâte de grandir.
Non, allez-y, dites-moi, pardon.
J'allais demander quand même quelle trace cela laisse en vous, c'est-à-dire aujourd'hui.
Alors,
parce qu'on n'en sort pas indemne d'une enfance pareille.
Ah non. Moi, j'ai décidé de rester célibataire à vie. Ça ne me pose aucun problème, je suis très heureux...
Vous avez 47 ans, donc à vie, la vie est longue.
47, ouais. Non, mais ce n'est pas une question de ça.
Vous ne voulez pas être en couple et pas fonder de famille?
Absolument pas. Non, parce que je ne veux pas prendre le risque. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, mon seul pouvoir, c'est d'arrêter sa lignée et je le ferai. Ça, c'était une question de revanche à un moment pour moi, pour faire honneur à l'enfant que j'ai été. Et parce que j'ai voulu réparer ce gosse qui avait... Et puis exister en tant qu'homme comme moi, je l'ai décidé. Et puis il y avait aussi le fait de me dire que je voulais pas non plus endommager ou prendre le risque d'endommager quelqu'un d'autre. Je voulais faire le travail sur moi-même. J'ai jamais fait un travail psychologique avec un psy. J'ai fait de l'hypnose, j'ai lu beaucoup de livres. Et j'écris et je crée beaucoup de choses. Donc dans la création, c'est là où je me retrouve et c'est là où j'arrive à exprimer tout ce qui... En fait, je m'ennuie jamais. Donc c'est comme ça, si vous voulez. Mais je veux pas prendre le risque de mettre quelqu'un en danger ou que quelqu'un me mette en danger. Donc je veux pas être en couple.
Est-ce que vous souffrez toujours? Vous me parliez de cauchemars.
Ça dépend. Moins maintenant. Mais pendant des années, je me réveillais en hurlant et en sueur. Et c'était des cauchemars hyper violents.
Vous n'avez jamais eu d'épisode dépressif dans votre vie?
Si, sûrement. Et d'addiction. Et je les ai reconnus, et j'ai su que j'y allais, et j'ai dit, ok, je dois y aller, je vais aller à fond dedans. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai aucun regret par rapport à ça. Je m'en suis sorti. Heureusement, pour l'instant, en tous les cas. Mais je sais identifier les signes qui font que... Et je travaille aussi... pour aider des gens qui ont... Enfin, bon, ça, je ne vais pas en parler, parce qu'après, je vais complètement changer de sujet. Donc, en fait, tant que j'arrive à exprimer les choses, tout va bien. Maintenant, des troubles dépressifs, si j'arrive à les reconnaître, et le fait de... En fait, la musique me sauve la vie.
C'est-à-dire la musique que vous écoutez ou...
Absolument. D'accord. Absolument.
Quel genre de musique écoutez-vous?
Ça dépend. Ça dépend vraiment des moments, mais en fait, tout ça, c'est quelque chose qui me fait voyager, en fait, et qui m'amène exactement là où j'ai envie d'aller. Mmh. Donc, quand ça commence à descendre, je peux voyager là où je veux.
Cette histoire dont on voit que vous réparez, et vous dites d'ailleurs, j'ai noté, j'ai voulu réparer ce gosse que j'ai été. Et finalement, par rapport à cette image du couple, cette image de la famille, vous la fuyez, vous vous construisez autrement. Oui. Ça a un prix quand même, lourd à payer. Et notamment, il y a aussi le prix de la culpabilité aujourd'hui, parce que vous voyez vos parents vieillir, bien qu'ils ne soient pas si âgés que ça encore. Votre père, vous dites, à 67 ans. Mais vous pensez vous anticiper, quand vous parlez d'héritage, de... on sent que vous anticipez, d'autant plus en étant à distance, d'autant plus avec la Covid qui fait qu'on est forcément éloigné parce qu'on ne peut plus voyager. Donc, attention, il y a la culpabilité qui est là. Vous savez, la culpabilité, elle prend tellement de forme. C'est toujours quelque chose d'un, d'un poison. Et je pense
c'est pour ça que je voulais vous appeler, parce que je voyais plus clair au bout d'un moment. Et je me suis dit, si je vous en parle, je sais que vous verrez. Vous allez trouver les. Ce sera plus clair pour vous que ça l'est pour moi.
Bah, c'est-à-dire, ce que j'entends, c'est que le coût à payer est quand même exorbitant. Même si j'entends encore une fois, et on entend dans les gens qui parfois n'ont pas voulu avoir d'enfants, quelque chose, finalement, le seul recours qu'ils ont eu, c'est d'arrêter quelque chose d'une lignée, comme vous dites, ou d'une transmission un peu toxique familiale.
C'est ça.
Et puis parce que finalement, il y a affaire à s'occuper de l'enfant qu'ils ont été et qui a été si malmené.
Voilà.
Maintenant, justement, vous avez mis en place beaucoup de défenses pour y parvenir, mais il y a cette culpabilité qui est toujours là, et ça, je pense que quand même,
ça... Il faut en parler.
Oui, parce que pour sortir du silence, au fond, je crois, il y a quelque chose dans ce qui revient toujours dans ces enfances traumatiques, c'est le poids du silence. Des deux côtés, hein.
C'est vrai.
Et vous pouvez l'exprimer, mais c'est une chose de l'exprimer à quelqu'un d'extérieur, c'en est une autre de pouvoir le dire, ou l'exprimer, en tout cas, au sein de sa famille. Parce qu'au fond, on sent, il y a toujours cela, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la culpabilité, il y a la souffrance, mais il y a la culpabilité et le désir de protéger, et en particulier votre mère, que vous aimez et que vous protégez à votre façon.
Ouais, c'est vrai.
Et encore une fois, là, en faisant cela, vous oubliez, je reprends votre expression, le gosse que vous avez été. Parce que c'est lui qui avait besoin d'être protégé.
C'est vrai, vous avez raison.
Votre mère était adulte, alors elle a aussi une histoire, on ne reste pas dans des relations conflictuelles comme ça où il y a de la violence par hasard.
Je lui ai demandé tout ça. Je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit, comment t'as pu rester? Je dis, moi j'ai des animaux, si quelqu'un lève la main sur un de mes animaux, je vois rouge. Comment t'as pu rester avec quelqu'un qui faisait ça à ton fils, quoi? Et c'est la raison pour laquelle on a quand même des rapports d'amour, mais conflictuels, parce que forcément je lui en veux.
Bien sûr.
C'est des femmes qui m'ont ouvert les yeux sur ma mère.
Moi, sur sa responsabilité aussi.
Voilà.
Oui, mais parce que c'est trop dur. Quand il y a un parent déjà qui est défaillant, on se raccroche à celui qui est le plus présent, ou en tout cas qui manifeste au moins sa tendresse et son amour. On ne peut pas perdre les deux d'un coup.
Voyez.
Il faut bien se raccrocher à quelque chose, et ça c'est lourd. Alors, il ne s'agit pas de tout jeter. Il s'agit de clarifier. De clarifier pour toujours un peu moins souffrir. Et pour finalement vivre sa vie, non pas en réaction et en opposition à ce qui a été vécu, mais pour trouver d'autres voies aussi. Il y a tout un pan de sa vie où on passe à se construire contre. Surtout ne pas reproduire, ne pas répéter.
C'est vrai.
À un moment... Il y a un accompagnement qui fait que on n'est pas obligé de reproduire, on n'est pas obligé de faire pareil, on n'est pas obligé de faire complètement l'inverse, simplement d'exister par rapport à soi-même, et certainement quand on commence à se libérer de ce poids de la culpabilité. C'est pour ça que c'est toujours si compliqué, les liens familiaux. Et moi, je vous invite quand même un peu à être accompagné. Ça n'enlève rien à ce travail de réparation que vous faites à travers beaucoup d'autres thérapies alternatives, ou même l'art et la musique et autres, vous voyez. Mais peut-être pour un moment que les choses se disent, ou parfois s'écrivent, ça peut être une lettre aussi. Après, on ne sait pas comment ça peut être reçu, mais parfois c'est important de pouvoir le formuler. Simplement, le formuler, l'énoncer. Je je vous conseille quand même de le faire. Voyez,
non, non, bien
parce
sûr,
que la culpabilité est trop présente. Même, elle est inévitable, hein, au vu de ce que vous me dites. Mais il faut que, vous, à mon avis, que vous soyez accompagné sur ce plan-là. Elle prend tellement de forme, vous savez.
Donc, oui, vous avez raison.
Continuez, vous avez raison, à réparer cet enfant qui est en vous. Mais
merci beaucoup.
Continuez à, je pense, parler. Ce n'est pas incompatible avec tout ce que vous avez mis en place déjà avec beaucoup de ténacité et de courage. Je vous embrasse, Olivier.
Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir.
Au revoir.
Bonne soirée.